Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. Positron, épisode numéro 43. Déjà trois épisodes qu'on a enregistrés ensemble. C'est un moment tellement agréable à passer avec Marion et Vivian. Plein de bonheur, de sérénité. C'est vraiment du plaisir.
C'est que de l'amour. C'est
voilà, que de l'amour. Donc Marion et Vivian nous rejoignent à nouveau pour cette troisième et avant-dernière fois. Pour un épisode de Positron, on va encore une fois vous recommander des trucs cool, des trucs sympas, des trucs marrants, des trucs intéressants, des livres, des BD, des jeux vidéo, de la musique, etc. etc. Aujourd'hui, on a un jeu vidéo, un film d'animation et un livre. Si vous avez des choses à dire pour cette présentation avant que je commence, que je me lance.
Bah, bonjour.
Bonjour.
Oui, d'accord. Bonjour, ok, c'est vrai. Il y a ça aussi.
Voilà.
Tout va bien. Vu qu'on est le 19 février, vous venez de fêter votre Saint-Valentin, c'était romantique et tout.
Toujours.
Ah ben, je laisserai parler Marion pour le coup.
Ah, d'accord, ok, bon, très bien.
On aura peut-être passé notre Saint-Valentin sur Divinity.
Original Sin.
Voilà, soirée très romantique.
Très bien. Oui, moi je ne fais pas partie des gens qui détestent la Saint-Valentin parce que c'est commercial. Je me dis, bon, non, autant faire un petit truc à la Saint-Valentin aussi. Pourquoi pas ?
Bah oui.
Et puis payer son bouquet le triple du prix auquel tu le paierais normalement, mais bon, c'est pas grave.
Moi, je suis pas très fleur, donc ça, il a pas de problème avec ça.
Ah d'accord, mais c'est pas une fleur, Isaiah ?
Non, ça vient d'un petit
peu
loin.
Ah non, si
en fait.
Tu m'avais raconté, oui, tu m'avais dit.
Ouais, c'est avec le basque, etc.
Oui,
c'est une copine qui parle
d'accord.
le basque qui m'avait donné ça, mais ça s'écrit pas exactement comme ça, mais voilà.
Ah d'accord. Okay.
Ça vient du basque.
Bon, donc c'est pas une fleur, ok. Bon bah, tant pis.
Non.
Mais Marion est une fleur.
Oh. Mais toi aussi, Vivian, tu es une vraie fleur. Tu es délicat.
Je l'ai dit, c'est que de l'amour.
On s'aime tous, c'est l'amour partagé. Et je vais partager mon amour pour un jeu que j'ai découvert il y a quelques semaines, qui est disponible uniquement sur PlayStation 4, donc c'est un petit peu ciblé. Mais franchement, il était tellement sympa. C'est pas le jeu de l'année. D'ailleurs, ça serait le jeu de l'année dernière, parce qu'il est sorti en 2014. Mais c'est un petit morceau de jeu que j'ai trouvé vraiment pas mal du tout, et qui en plus pourrait être disponible pour pas mal de gens sans qu'ils le sachent, ou du moins sans qu'ils aient pris le temps de le faire. Je m'explique. Le jeu, c'est Infamous. Quand j'essaye de faire un accent anglais en français, j'y arrive pas. Infamous First Light. Infamous, c'est une série propre aux consoles de Sony, dont l'épisode PlayStation 4 est sorti il y a quelques mois, qui s'appelait Infamous Second Son, et qui était un jeu complet à, je sais plus, 60-70 €, très long et tout. Et ils ont sorti une sorte de DLC, un contenu supplémentaire qui n'en est pas vraiment un, parce qu'on peut l'avoir même quand on n'a pas le jeu original. Donc ça s'appelle Infamous First Light, et ça coûte 15 €, je crois, et en plus, en janvier, c'était disponible sur le PlayStation Plus, qui vous donne deux jeux, enfin gratuitement, c'est-à-dire quand vous avez l'abonnement, vous avez deux jeux par mois, un ou deux jeux sur chaque console de Sony, et il était inclus le mois dernier, donc je pense qu'il y a des gens qui l'ont téléchargé, peut-être que certains ne l'ont pas fait, et même si vous ne l'avez pas eu gratuitement, entre guillemets, je pense que ça vaut le coup de l'acheter, parce qu'il est super bien. C'est pas une expérience très très longue, ça doit durer peut-être 5 heures de jeu pour finir l'histoire principale, peut-être même un petit peu moins, 4 heures, et il y a peut-être une dizaine d'heures de jeu si on veut tout faire. Moi j'en ai fait pas mal, et c'est un jeu en monde ouvert où on va suivre l'histoire d'un personnage, une jeune fille qui a des pouvoirs comme dans le monde d'Infamous, et elle a le pouvoir de manipuler le néon. C'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais en fait, ça lui permet, un petit peu comme les autres pouvoirs de la série, de courir très vite en se dématérialisant un petit peu, en devenant du néon, en quelque sorte, et puis d'envoyer des boules de néon pour détruire ses ennemis. Il y a plein de petits pouvoirs comme ça. Et il est assez beau, c'est pas aussi beau que les plus beaux jeux de la console, comme Assassin's Creed Unity, qui moi m'a ébloui, mais il est assez beau, et puis surtout, pour la durée, c'est vraiment une expérience très ramassée, très compacte, et très, on dit en anglais, rewarding. Je sais pas si vous pouvez m'aider à trouver le terme français, c'est gratifiant. Voilà, je me suis aidé tout seul.
Ça récompense.
Dans le gameplay, c'est gratifiant. Quand tu joues, tu as des nouveaux pouvoirs un petit peu tout le temps. À chaque fois que tu joues un petit peu, tu commences à maîtriser les pouvoirs que tu as déjà et tu vas en avoir d'autres qui vont te simplifier encore les choses. Mais en même temps, il y a des ennemis un petit peu plus difficiles.
Le personnage évolue vraiment, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que sur un jeu qui va durer 15-20 heures, parfois, on a un petit peu le temps de s'emmerder. Là, pas du tout. Chaque élément, ça va même un poil trop vite, mais comme on peut tout explorer et prendre son temps, on peut y donner le rythme qu'on veut. Et au final, ça marche super bien pour un petit prix, pour un jeu comme ça, et pour une expérience vraiment satisfaisante. L'histoire est pas mal, elle est bon, c'est pas le meilleur auteur de la Terre qui l'a écrit, mais ça va, ça tient la route. Et au final, c'est une très bonne expérience pour le bon prix. Et je parle souvent de la question du prix des jeux. Il y a beaucoup de gens qui disent que les jeux sont trop chers, machin. Ben là, non, c'est un jeu de très bonne qualité qui est vendu à 15 euros seulement pour une durée de vie qui est correcte. Franchement, je comprends pas que tout le monde ne l'ait pas déjà. Si vous avez une PlayStation 4, c'est un excellent jeu. Et moi, du coup, ça va m'amener à m'intéresser à Infamous Second Son parce que j'ai pris tellement de plaisir dans celui-là que je vais peut-être m'intéresser au vrai gros jeu complet. Et même retourner dans celui-là parce que enfin il y a plein de petits systèmes sympas. Quand on commence à courir très vite en se transformant en néon, on court beaucoup plus vite, mais il y a des petits points dans la rue, peut-être pour schématiser genre tous les 50 mètres, qui nous font accélérer encore plus. Donc pour traverser la ville, en fait on peut courir vite, mais on peut courir encore plus vite en faisant cette sorte de course de relais entre les différents points qui amène même au déplacement une dimension ludique qui apporte vraiment quelque chose. C'est sympa de se déplacer, il y a des éléments de course, il y a plein de petits trucs, bref, c'est fluide, c'est agréable, le gameplay passe tout seul. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu-là, et donc je le recommande, et si vous l'avez téléchargé par principe au moment du PlayStation Plus à l'époque, vous pouvez vous y réintéresser, parce qu'il vaut le coup. Ça s'appelle Infamous First Light. Et c'est un jeu vidéo que je recommanderais à tout le monde, si vous aimez les jeux vidéo, bien sûr. Voilà pour moi, Marion.
Alors, je vais vous parler, en ce qui me concerne, d'un film, et c'est également un film d'animation, un film de science-fiction américano-luxembourgo-israélo-franco-polonais. Alors, il y a un peu pas mal de pays.
Il y a du monde.
Ouais, il y a du monde. Et en fait, il a été donc il s'appelle Le Congrès ou The Congress et a été réalisé par Ari Folman. Donc pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a réalisé Valse avec Bachir, qui a été pas mal récompensé, il me semble qu'il a été récompensé, où il y a eu pas mal de retours médiatiques là-dessus. C'était un très beau film d'animation. Et voilà, donc c'est le même réalisateur. Et c'est également, il faut le savoir, l'adaptation du roman Le Congrès de Futurologie de l'auteur Stanislas Lem, publié en 1971. Voilà, le film dont je vais parler, il est sorti en 2013, donc il est assez récent pour le coup. Et c'est vraiment une libre adaptation. Alors moi, j'ai pas lu le livre en ce qui me concerne, mais voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est comme je le disais, c'est un film en live action, donc avec des acteurs, la première partie. Et la seconde partie du film, c'est vraiment un film d'animation. Donc là, on perd entre guillemets les acteurs. Il dure 2 heures. Donc pour le coup, voilà, c'est pas trop trop long. C'est une durée vraiment honnête. Et il y a vraiment la première heure avec les acteurs et la seconde en animation. Donc c'est un petit peu spécial. Je mets en garde, Valse avec Bachir, vous le savez, c'est pas pour les enfants, pour ceux qui connaissent. Et vraiment, Le Congrès, c'est pareil. Hein, ça s'adresse à un public plutôt averti, hein, vraiment des adultes. Au niveau de l'histoire, ça traite plutôt du monde du cinéma, De l'industrie du cinéma, vraiment, de tout le mécanisme. Et en fait, on va suivre l'actrice Robin Wright, qui est une vraie actrice, mais elle joue son propre rôle dans le film. Pour ceux encore qui connaissent, elle joue dans House of Cards. Voilà. Et donc, elle est magnifique dans ce film-là. Donc, ça tourne autour d'elle. L'histoire, donc, c'est... en gros, elle a eu une carrière un petit peu... C'est une actrice déchue, une star déchue, plutôt, qui a eu un grand succès avec Princess Bride, avec Forrest Gump, etc. Et qui, a fait des choix de carrière et des choix personnels, parce qu'elle a eu deux enfants, etc., qui ont fait qu'elle a perdu un peu cette aura de star et que son succès est beaucoup moins retentissant. Que c'est un peu une star un petit peu oubliée.
Ah, c'est vraiment elle se joue elle-même, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors, les enfants, pour le coup, elle n'a pas repris exactement les mêmes prénoms, etc. Mmh. Mais en ce qui concerne sa carrière, il joue vraiment avec vraiment la carrière de Robin Wright, ce qui est assez dingue parce qu'elle se met un petit peu en danger et elle est réaliste aussi sur sa carrière. Donc ça, c'est très, très intéressant et ça ajoute vraiment un aspect émotionnel très fort au film parce qu'elle se met en danger et elle joue sa vie. Donc, pour le coup, il y a une émotion très, très forte. Et en gros, la société pour laquelle elle travaille dans le monde du cinéma va lui proposer en fait de la scanner, de digitaliser l'actrice Robin Wright pour qu'en fait elle puisse complètement oublier sa carrière d'actrice et elle devient juste la personne Robin Wright et elle peut se concentrer sur sa vie de famille qui est son objectif principal. Vivre avec ses enfants, les élever, profiter de tous les instants avec eux. Et en fait,
ça a l'air compliqué ton truc, hein. Ouais, ça me fait mal à la tête déjà. Non, pardon, je plaisante.
Mais non, l'actrice Robin Wright sera complètement digitalisée. Donc, c'est des personnes, des développeurs, des personnes qui s'occupent du monde de l'informatique qui vont en fait récupérer toutes les données digitalisées et vont la créer uniquement dans le monde informatique, recréer l'actrice Robin Wright. Et donc, en fait, c'est ce double digitalisé qui va jouer dans les films, qui va jouer à la place de la personne humaine. Voilà. Et donc, au début, elle était assez réticente et finalement, par des choix personnels et par des contraintes personnelles, parce qu'elle a un de ses enfants qui est malade, elle va accepter ce dernier contrat, parce que pour le coup, si elle accepte ça, elle ne doit plus, la personne Robin Wright ne doit plus être sur scène ou jouer ou accepter de prendre des rôles. C'est l'actrice digitale qui prend le relais.
Mais elle pourrait quand même ne pas accepter les trucs, sauf que là, elle est payée en actrice digitale quand même.
Voilà, c'est son dernier contrat en fait. Mmh. C'est le dernier contrat où elle cède
les droits
de sa
d'actrice. Personne. Presque.
Exactement. Non, les droits de d'actrice. Voilà, c'est ça.
Et mais donc, du coup, est-ce qu'elle a toujours le droit d'être actrice ou est-ce que c'est genre je cède une partie de ma personne en quelque sorte?
Non, c'est ça. Elle cède vraiment toute la partie actrice. Elle n'a plus du tout le droit de jouer. Donc, d'accord. C'est vraiment une décision très difficile. Et en fait, il faut le savoir, il y a un aspect d'anticipation en fait, dans cette histoire-là, parce que c'est l'évolution du monde du cinéma. Et en fait, de plus en plus d'acteurs acceptent de se digitaliser. Comme ça, eux, ils partent vivre aux Bahamas et leur double digital joue à leur place, travaille à leur place.
Dans le film, hein, on est d'accord. D'accord.
Oui, d'accord, exactement.
Okay. Non, parce que, comme tu le disais, c'était presque genre... oui, c'est de l'anticipation, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui acceptent de se faire digitaliser et partir au Bahamas.
C'est dans cet univers, dans l'univers du film.
Okay.
Et donc, voilà, la deuxième partie, elle, va se dérouler 20 ans après, où on retrouve Robin Wright, qui est invité, donc là, la personne, qui est invitée à un congrès de futurologie, et qui est invité, qui est un invité d'honneur, et c'est toujours la société de production de cinéma à l'origine Miramount, qui l'invite en guest, en fait, cette société est devenue énorme, en fait, dans le futur, 20 ans après, et a un peu du pouvoir partout sur la société en général. Je veux pas aller détailler trop loin parce qu'après je veux pas vous spoiler au niveau de l'histoire. Et donc voilà, elle se rend à ce congrès de futurologie et à partir de ce moment-là, le film va basculer dans l'univers d'animation, en film d'animation. Et là, on a une vraie rupture. D'une part, j'étais partagée parce que je trouvais que les acteurs de la première partie étaient magnifiques, jouaient merveilleusement bien. Et d'autre part, le basculement dans le film d'animation est vraiment une trouvaille très intéressante dans l'histoire et dans le traitement. Il est bien amené. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'au niveau du style de dessin, je ne sais pas si vous avez jeté un œil, mais ça, c'est un petit peu un hommage aux dessins animés des années 30, des dessins animés américains, sauf que là, c'est en couleur. Et vraiment, il y a une patte très 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 particulière. Les animations sont très flexibles, très élastiques, très exagérées. C'est un petit peu entre réalité et imaginaire. On ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, autant dans l'histoire que dans le traitement animé. Et c'est vraiment un film original. Donc attention, il est plutôt pour, il n'est pas pour tout le monde déjà, et il est plutôt pour les personnes qui sont curieuses, parce qu'il faut si, enfin l'histoire on s'y plonge facilement, mais le traitement est original.
D'accord.
Voilà, je ne vais pas en dire plus là-dessus, sur l'histoire en tout cas. Mais oui, tu avais une question ?
C'est un drame, c'est un film d'action, c'est un film d'humour. Bon, je n'ai pas l'impression, mais...
Non, alors ce n'est pas un film d'humour, c'est plutôt un film de science-fiction. C'est pas un drame, mais c'est sur l'évolution possible de la société. Ça donne une nouvelle perspective. Et... ouais, c'est pas rigolo, quoi. C'est pas une comédie.
D'accord.
Mais c'est très intéressant. C'est une réflexion sur l'évolution de la société. Voilà.
Ok. Ça a l'air intéressant, effectivement.
C'est un peu déstabilisant. Ça peut l'être. Mais justement, ça sort un peu des sentiers battus. Et le traitement est tout à fait... le discours est important. Et voilà, je le recommande. Tu l'as vu, Vivian ?
Non, du tout. Mais ça me rappelle un peu Simone, un film où on essayait de recréer un peu une actrice à partir de différentes, le physique de plusieurs actrices, etc. Et reconstituer. Mais alors là, pour le coup, pour créer vraiment une actrice virtuelle, en quelque sorte. Je ne sais pas si ça vous parle comme film, Simone.
Ça me dit quelque chose.
C'est sorti il y a longtemps, je crois que c'était en 2000, 2002, un truc comme ça. Et c'était un film de science-fiction. Mais là, c'est vrai que le mélange à la fois d'images réelles et d'animation, etc., peut être aussi assez intéressant. Donc, j'étais passé totalement à côté du film. Et le titre, justement, j'attendais que tu termines un petit peu ton pitch pour mais pourquoi ça s'appelait Le Concret, et je l'ai compris après dans la deuxième partie en fait du coup de
comprend vraiment dans la deuxième partie, c'est qu'en fait tout va tourner autour de ce congrès de futurologie, et il porte bien son nom pour le coup, parce qu'en fait ça va être une nouvelle étape dans l'évolution de la société qui va influencer vraiment la vie de tout le monde, et c'est une décision que chacun doit prendre, et c'est vraiment très intéressant.
Ok.
Je rajoute à ma toute.
Moi aussi, ça a l'air effectivement, ça m'a donné envie aussi. Je vais juste préciser qu'il est donc sorti en 2013 au ciné, et il sortira en DVD en avril. Donc vous avez encore 2 mois à attendre avant de pouvoir le récupérer. Donc voilà, c'est Le Congrès en français, et ça sera disponible dans 2 mois.
Il faut patienter un tout petit peu.
Un tout petit peu. Je donne maintenant la parole à qui je vais pouvoir donner. Vivian, vas-y.
Ouais. et je vais vous parler d'un livre qui est sorti il y a un an tout pile, le 19 février 2014. J'ai checké ça sur Amazon justement, puisque pour un peu argumenter ma position, et je me suis rendu compte qu'il est sorti il y a tout pile un an, mais il est encore d'actu et il vaut vraiment le coup. Là, je le tiens dans les mains, vous le voyez, hein, forcément, bien sûr. c'est un livre qui s'appelle « La Bible Steampunk », écrit par Jeff Vandermeer, alors ça s'écrit V-A-N-D-E-R, M-E-E-R, et si vous allez regarder ça un petit peu sur internet, voir un petit peu à quoi ça ressemble, vous allez vous rendre compte que c'est un très très beau livre, un livre rouge et doré, avec les pages là qui sont en feuilles d'or sur le côté, etc. Donc c'est un très bel ouvrage de 220 pages, édité chez Bragelon. Et donc, la Bible steampunk, bah, c'est tout simplement, en fait, bon, c'est un petit peu pompeux comme, comme titre, on va dire, mais, mais pour le coup, ça fait vraiment.
Attends, laisse-moi deviner, laisse-moi deviner. Ça fait le tour de l'univers de Donjons et Dragons.
Ah non,
non. Ah merde.
T'as tout compris au steampunk.
Ah là là, j'y étais presque.
De l'univers steampunk.
Ah, ok.
Eh oui,
ah, mais du coup, ok, du coup, maintenant, je comprends le titre. Effectivement. Ah bah voilà.
et qui est un univers qui m'intéresse particulièrement et surtout d'un point de vue cinématographique parce que généralement, enfin voilà, parce que moi c'est souvent la porte d'entrée, moi, pour moi qui m'intéresse beaucoup au cinéma, c'est souvent une porte d'entrée et moi qui aime aussi beaucoup les univers, etc. Là, on ouvre le livre et on part vraiment dans un univers, voilà, dans une, j'ai envie de dire, dans une faille du temps, puisque l'univers steampunk raconte un petit peu comment pourrait être notre société si elle avait évolué dans un univers un peu plus mécanique à l'aube de la révolution industrielle, etc. Et donc cet ouvrage est vraiment brasse vraiment absolument tout l'univers steampunk. Ça revient bien sûr sur l'histoire et les origines du mouvement, que ça soit bien sûr dans la littérature puisque c'est là en fait le point de départ, mais aussi la culture populaire, y compris le cinéma, la télévision, les comics, les mangas aussi. On apprécie particulièrement le travail de recherche et de documentation du bouquin. Il y a pas mal de citations de grands auteurs, etc. Mais surtout, on apprécie l'illustration du bouquin. Il y a plein de dessins, de croquis, de photos, de peintures, d'extraits, de textes, de littérature. Il y a un manifeste steampunk qui est très intéressant à lire aussi. Donc voilà, on parle bien sûr aussi de tout ce qui concerne la révolution industrielle à base donc voilà de l'énergie à base de vapeur, les rouages métalliques, etc. On revient aussi sur l'importance des grands romanciers comme Jules Verne, Wells ou Edgar Allan Poe aussi, de tous les objets qu'on peut associer aussi à l'univers steampunk comme les dirigeables, les robots, les fusées, etc. Et aussi de la mode. La mode steampunk, alors on imagine les hautes formes, les petites lunettes d'aviateur, les mitaines, les montres.
Il y en a un petit peu, enfin il y en avait au Comic-Con à Paris.
Oui, bah voilà.
Des stands, il y en avait quelques-uns.
C'est quelque chose qui, quand vous, si steampunk, le terme ne vous parle pas, tapez steampunk sur internet ou feuilletez mieux le livre steampunk et tout de suite vous allez voir un peu l'univers et ça va vous rappeler plein de choses. Moi, en termes de ciné, moi, ça me. Alors, il y a plein de films qui parlent un peu de cet univers-là. Il y a Steam Boy, qui est un excellent un film d'animation japonais, oui. Qui voilà, qui se passe dans l'Angleterre victorienne, etc. Donc, c'est avec toute la révolution industrielle. Il y a plus récemment aussi le Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Avec les noms m'échappent.
Robert Downey Jr.
Voilà, absolument. Donc qui joue voilà, qui mélange l'univers Sherlock de Sherlock Holmes et un univers un peu steampunk vu que ça se passe à Londres à une époque. Voilà.
Le premier était pas trop mal. Enfin moi je l'ai pas trop détesté. Le deuxième un peu moins. Mais...
Voilà.
Il y a Hellboy aussi qui s'en
est inspiré
dans cet univers.
Hellboy, la Ligue des Gentlemen extraordinaire. Donc il y a pas mal de films. Il y a pas mal de séries aussi, on en parle un petit peu dans ce livre. Voilà, c'est vraiment un livre très complet qui fait vraiment le tour d'absolument toute la question. En 220 pages, c'est sûr que forcément il y a pas mal de choses qui sont dites là-dedans. Et je le répète, c'est surtout les illustrations, toutes les affiches, les comics, les bandes dessinées... Les objets en eux-mêmes qui sont photographiés, les inventions, les créations, les détournements d'objets pour former voilà un peu des œuvres d'art steampunk, pas mal aussi de photographies de mode où on voit justement des gens qui se déguisent un peu en mode steampunk. On parle aussi de musique steampunk. Alors là, j'avoue que j'ai découvert un petit peu ça, pour le coup.
C'est comment, la musique steampunk ?
Alors là, je pourrais pas...
Ok.
C'est un livre, Patrick, donc...
Ah, ok, d'accord.
Il n'y a pas de musique dedans, mais ça parle...
Mais justement, quand tu dis qu'il y a un grand travail de documentation et et de références. Mais du coup, est-ce qu'il donne vraiment les références? Par exemple, tu parles de stylisme, d'accessoires, etc. Ce qui est un peu compliqué, c'est est-ce qu'il y a des liens, enfin des informations sur où est-ce qu'on peut trouver ça ou acheter ça? Parce que c'est un peu compliqué. Alors, c'est souvent des artistes un peu isolés qui font du.
Et ben c'est exactement ça en fait. Le en gros, ce qui est expliqué, c'est que tout ce qui est steampunk, à la base, c'est un peu le mouvement des inventeurs, des gens qui ont la création dans les mains et qui donc bricolent des choses, que ça soit des objets, mais aussi leurs propres vêtements. Et donc c'est pour ça que l'on en voit aussi au Comic-Con, puisque souvent les gens qui se déguisent au Comic-Con sont des déguisements qu'ils ont fait eux-mêmes, qu'ils ont pas acheté, etc. Donc forcément. C'est vraiment le cas aussi pour tout ce qui est steampunk. C'est aller chercher à droite et à gauche différents objets, les associer pour se donner un look steampunk. Donc ça revient effectivement beaucoup sur ce phénomène-là en fait, j'ai envie de dire, et moins sur comment c'est né, etc. Il y a eu pas mal de théories aussi. C'est souvent il y a eu des chercheurs qui ont fait des théories sur justement ce mouvement-là, donc ils sont repris un peu. Donc non, franchement, c'est vraiment très intéressant comme livre et on apprend beaucoup de choses et on voit que c'est vraiment, c'est pas quelque chose de limité à un art, à une branche de culturelle, on va dire. C'est vraiment, ça couvre absolument tous les corps de métier, enfin tous les corts culturels, j'ai envie de dire tous les arts.
Tous les arts, oui.
Tous les arts, tout simplement. Et donc je me disais que ça avait toute sa place dans Positron, qui parle beaucoup d'art et de choses. Voilà, là vous trouvez tout dans ce bouquin, vous trouvez tout. Vous avez envie de vous faire un film steampunk, une série steampunk, écouter de la musique steampunk, voir des expositions. Il parle bien sûr aussi, je ne sais pas si ça vous parle, d'une association qui s'appelle Les Machines de Lille à Nantes. À Nantes, il y a un groupe de personnes qui construisent des sortes de chars gigantesques à base de d'objets recyclés, etc. Il y a une image très célèbre de ça, c'est un éléphant géant qui bouge un peu tout seul comme ça.
C'est un peu comme le Royal Deluxe du steampunk en fait.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc c'est à la fois, j'ai mis pour fan dans le document Patrick, mais c'est pour fan parce que c'est un univers qui est bien spécifique, mais c'est à la fois aussi pour tous parce que c'est pour les personnes qui auraient envie de s'intéresser à ce mouvement-là. Je pense que c'est une très très bonne porte d'entrée pour se rendre compte un petit peu de toute la richesse qu'il peut y avoir derrière le mot steampunk en fait, qui est aussi un mot qui est un peu compliqué. Il y a aussi toute une théorie sur le mot steampunk, machin. Donc ça va très.
Ce qui est marrant, c'est que le mouvement steampunk, c'est comme une alternative à l'évolution de notre société, en fait. C'est comme s'il y avait à un moment donné dans notre histoire un pan, une autre évolution possible de notre société avec d'autres inventions, une autre mode, etc. Et ça évolue de cette manière. Et nous, on a opté pour une autre voie.
Un terme littéraire qui m'échappe, mais qui est exactement ça. C'est souvent les films, les séries de science-fiction, les livres de science-fiction partent d'un point comme ça, un peu situé dans le passé, et prend une direction totalement différente. Et on arrive à un univers parallèle où des choses.
C'est un peu ça, voilà.
Voilà. D'accord. Donc, c'est comme si la technologie était restée à la vapeur, au charbon.
Je sais pas comment ça s'appelle, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a un terme pour ça en science-fiction scientifique.
C'est ça.
Tout à fait.
C'est ça.
Bon, très bien. Eh ben, écoute, merci.
Ça coûte 30 euros.
D'accord. Donc la Bible steampunk, si vous voulez creuser un petit peu plus dans l'univers steampunk, c'est peut-être pour vous. On vous rappelle les positrons qu'on vous a fait dans cet épisode. Il y a Infamous First Light d'abord, un jeu vidéo sur PlayStation 4. The Congress, le Congrès, un film d'animation et un film normal mélangé en deux d'Harry Folman. Et enfin la Bible steampunk que vous recommandez Vivian. Je vais donc clôturer officiellement cet épisode de Positron, mais non sans avoir donné à mes camarades positroneurs l'occasion de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. Et je quitte mon ton grandiloquent pour ça. On va faire un truc un petit peu fou aujourd'hui, je me sens d'humeur joueuse. On va d'abord demander à Vivian de nous dire où on peut retrouver sur Internet.
Vivian
prend des risques.
Je sais plus, moi je m'appelle Vivian, je crois. Enfin, oui, je sais plus, ça, là, tu m'as perturbé. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, mon pseudo c'est tout simplement Vivian avec un A et Roldo avec deux O. Clin d'œil. Et vous pouvez m'écouter dans un podcast qui s'appelle Satourn, SAT2ORN. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes et sur SoundCloud pour nous écouter en streaming aussi. Et on parle de cinéma, de l'actualité du cinéma et des sorties en salle. Voilà.
D'accord, c'est donc Satourn.fr.
Absolument.
Marion.
Alors, en ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux et sur Twitter au pseudo Aizea Design. J'ai également un blog de musique qui s'appelle wildsession.fr et je suis également présente sur le blog et la chaîne YouTube Tech, naotech.tv.
Magnifique. Et pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. C'est Patrick Béja sur Google+. Et vous pouvez aussi me retrouver et retrouver toutes les émissions que je produis sur frenchspin.fr. Vous retrouverez le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, upload, etc., etc. Et des émissions en anglais sur frenchspin.com aussi. Vous pouvez aussi retrouver les notes de cet épisode et vous pouvez venir commenter les bêtises qu'on a dit. Ça nous fera toujours très plaisir. C'est sur ces mots d'invitation qu'on se donne rendez-vous, qu'on clôture effectivement cet épisode et que je vous donne rendez-vous au prochain épisode dans 15 jours pour le dernier épisode de cette session avec Marion et Vivian. Et vous ne voudrez pas la rater. Dans 15 jours. Ciao à tous.
À très vite. Bye bye.